Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères Gallois. Je suis Denis et pour m'accompagner dans ce podcast, je suis avec mon frère Rémi.
Bonjour à tous.
Cet épisode est le deuxième. Donc pour ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode qui était divisé en trois parties différentes, donc je vous invite à aller les écouter. Et ce que je te propose de faire, Rémi, avant de commencer, c'est de revenir un peu sur ce premier épisode et un peu eh bien, tous les retours qu'on en a eu.
Ouais, il a été très bien accueilli. Bien sûr, on l'a découpé par contre en trois parties parce que c'était plus facile en termes de logistique et même en termes d'écoute pour vous. Donc, on l'avait partagé sur plusieurs applications, YouTube, Spotify, Apple Podcast et même Google Podcast. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu de très, très bons retours. Merci tout le monde. Merci pour vos messages. Merci pour les likes aussi. Et merci pour vos retours, puisqu'on va s'appuyer sur ces recommandations pour améliorer les prochains podcasts et bien sûr tenir compte de tout ce que vous avez pu nous apporter.
C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de retours sur le podcast. Tout le monde en a pensé vraiment beaucoup de bien. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, j'avais déjà eu un premier podcast que j'animais tout seul il y a deux ans et demi, quelque chose comme
exact,
ça.
Ouais.
Il n'avait pas du tout aussi bien marché. J'avais dû publier quoi, peut-être une vingtaine d'épisodes et je faisais genre 10 ou 15 écoutes à l'époque. Et là, de voir que ne serait-ce que le premier épisode a fait plus de 2000, voire peut-être même 3000 à l'époque où on tourne ce podcast, écoute, c'est assez incroyable. C'est vrai qu'on était très contents et on ne s'attendait pas à ce que le premier épisode fonctionne de cette manière-là. Et du coup, ça nous pousse, on va dire, à continuer à faire toujours plus d'épisodes et à toujours nous améliorer dans les podcasts. Donc merci à vous tous pour ça.
Pour ceux qui auraient pu le louper, n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc, on l'a découpé en trois parties où on retrace un petit peu nos débuts en musculation. Petite préférence pour la partie 2 et 3, où les moments où je suis à fond dans la musculation. Et c'est aussi au plus proche de l'actualité, donc d'aujourd'hui, où on a présenté notre progression, notre vision des choses et ce qu'on aspire surtout, notre vision à long terme dans cette pratique. Donc voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui l'auraient loupé, à aller l'écouter.
C'est vrai que la première partie, c'était aussi la partie de lancement avec une intro un peu longue où on a présenté le podcast. Et ça, c'est toujours la partie un peu chiante. Et c'est d'ailleurs la partie qu'on est en train de faire. Ouais. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de tout de suite passer un peu au podcast. Comme d'habitude, on suit toujours le même trait, c'est-à-dire donc au début, on va faire un retour un peu sur nos semaines, ce qui nous est arrivé, etc. Et après, donc, ce podcast, c'est un podcast FAQ où on va répondre donc, à plusieurs questions. Les podcasts, donc, ils vont se diviser donc, en grands thèmes, où là, du coup, donc, il faut un podcast complet pour y répondre. Et tout ce qui va être un peu plus questions rapides, on fera donc plusieurs épisodes comme ça, donc FAQ, où on peut répondre à plusieurs thématiques différentes qui n'ont pas besoin d'être épiloguées pendant 3 heures.
Donc là, on a fait une sélection de questions. On va vous les présenter et vous les détailler et bien sûr y répondre. Mais juste avant, on a notre petit rituel de prendre des nouvelles, puisque pour ceux qui ne le savent pas, nous ne sommes pas dans le même pays. Denis est en Hongrie. Et moi, je suis en France, donc du coup, c'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles sur le quotidien de mon frère. Comment ça se passe, Denis, en ce moment, tes entraînements, ta nutrition?
Alors,
parce que on échange quand même un petit peu. Je sais, j'ai quelques idées de ce que tu fais, de ce que tu as aussi comme petits soucis en ce moment. Mais je te laisse le dire.
Alors, concernant ma semaine, on va dire l'élément marquant qui m'est arrivé, c'est que du coup, donc, j'ai eu une blessure au niveau du dos. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que ça m'est arrivé juste après avoir publié le deuxième épisode du podcast où du coup, donc, je parlais de ma hernie discale et du coup, des problèmes que ça m'avait engendré, etc. Je suis passé un peu rapidement sur cet épisode, mais c'est vrai que c'était assez chiant et j'avais fait pas mal de renfaux. Et du coup, juste après l'avoir publié, en plein milieu d'une séance jambes, j'ai eu une grosse douleur dans le dos qui m'a fait du coup donc stopper ma séance. Alors, je vous rassure, c'est pas ma hernie qui est revenue. Cette fois-ci, c'est une douleur qui est plus musculaire. Pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, donc en plein milieu de ma séance jambes, j'avais fait donc adducteur, leg extension, leg curl, et j'allais sur le hack squat. J'avais pas encore commencé mon hack squat. Et en fait, en me penchant pour ramasser mon logbook qui était par terre, grosse douleur dans le bas du dos. Et clairement, ça m'a bloqué. Alors que d'un côté, donc en bas à droite, et vraiment, je pouvais plus bouger. Donc je suis rentré chez moi tant bien que mal. J'ai appelé, enfin non, Rémi m'a appelé parce que du coup, donc j'ai envoyé un petit message à Rémi tout de suite. Je crois que je me suis niqué le dos. Et et du coup, donc il m'a appelé et il a suivi en live. Donc j'ai réussi à rentrer chez moi. Et après, bah, clairement, j'étais bloqué dans une position qui n'était pas forcément très confortable. Et à force, voilà, d'essayer de trouver des solutions pour me débloquer, etc., j'ai réussi au final à me débloquer. Parce qu'il faut savoir que, comme l'a dit Rémi, je suis en Hongrie. Donc, si j'ai un problème, il faut que je me démerde.
Ouais, c'est ça, hein, c'est système D, hein, système débrouille.
Système D. Après, voilà, on va dire que j'ai quand même assez rapidement identifié la blessure, quel type de blessure c'était. Et on va dire qu'avec l'expérience, j'ai su aussi comment en faire pour la gérer. Donc, je me suis quand même assez rapidement débloqué. Le soir même, du coup, donc je pouvais marcher, hein, il n'y avait pas de problème. J'ai été faire mes 10K steps du soir qui me manquait. Et du coup, donc là, j'ai toujours, on va dire, une petite pointe, mais ce n'est pas dérangeant. Ça me gêne un peu sur certains mouvements. Donc, il y a certains mouvements que je ne peux pas faire. On va dire que je peux faire 70% de mon programme d'entraînement sans problème, mais ouais, on va dire que ça me gêne un peu. Et du coup, bah, la solution est très simple, hein, il faut laisser reposer, et tous les mouvements qui me provoquent une douleur, eh bien je ne les fais pas. Donc tout ce qui va être type hack squat, soulevé de terre, c'est des mouvements que je ne fais plus pour le moment, mais tout le reste, ça ne me pose pas de problème. Voilà, par exemple les mollets. Tout ce qui va être mollet debout, j'ai remplacé par des mollets assis, tout simplement, voilà, pour laisser un peu plus reposer la zone. Et par contre, à côté de ça, bah, je reste quand même actif, je ne prends pas de repos complet pour mon corps. Donc voilà, en fait, je m'entraîne autour de la douleur.
Ouais, parce que tu as quand même l'aspect aussi appréhension, parce que même si ça va mieux, tu n'as pas envie de redéclencher cette douleur, donc tu travailles autour de la blessure, comme tu dis, et puis surtout au seuil de la douleur. Ce qu'il faut, c'est surtout pas la réveiller à nouveau.
Ouais, c'est ça, le but, c'est que voilà, le but, c'est de m'en débarrasser le plus vite possible pour que je puisse reprendre bien mon programme d'entraînement avant, et aussi comprendre, c'est ça qui est très important, c'est comprendre pourquoi cette douleur est arrivée, et faire en sorte du coup de modifier les choses pour que ça n'arrive plus. Parce que comme je l'ai dit dans les précédents podcasts, quand j'ai parlé de mes blessures, etc., une blessure, une douleur n'arrive jamais sans raison. Et ce qu'il faut, eh bien, il y a toujours des signes un peu avant-coureurs, hein, lorsqu'on a une douleur ou une blessure. En général, ça vient rarement du jour au lendemain. C'est un peu comme une voiture. Pour la petite anecdote, j'avais une voiture avant qui était, donc c'était une 106 Kids.
Une 106 Kids.
Avec l'intérieur en jean pour les connaisseurs. Et à la fin, elle était complètement flinguée. Mais voilà, elle prenait feu, pour faire simple. Je roulais, elle prenait feu, et je roulais en permanence avec un extincteur. Et il fallait que je sois prêt à dégainer dès que je m'arrêtais pour tout simplement eh bien, utiliser l'extincteur. Elle crachait des flammes par le pot d'échappement tellement énorme que je peux t'assurer que les distances de sécurité, elles étaient respectées. Mais pour revenir un peu sur le sujet, c'est que avant d'en arriver là, il y a eu des signes avant-coureurs. C'est-à-dire qu'elle a commencé par faire un petit bruit, un voyant qui s'allumait de temps en temps. Voilà, il y a toujours quelque chose, et il faut pas arriver au stade où, eh bien, ton dernier choix, c'est vraiment d'acheter une nouvelle voiture. Ce qu'il faut, c'est dès que tu as un petit bruit, eh bien,
identifier la cause. Ouais.
Voilà, identifier la cause, aller chez le mécano si besoin. Et c'est pareil avec ton corps. Il ne faut pas attendre que tu ne puisses plus du tout t'entraîner, que tu sois complètement défoncé pour eh bien, faire quelque chose. C'est, voilà, dès que tu commences à avoir une petite douleur, c'est déjà un signe qui t'alarme et qui doit faire en sorte que tu eh bien, fasses certaines modifications. Si tu as des douleurs à l'épaule sur un mouvement de poussée, c'est peut-être que tu fais mal ton mouvement, ou que le mouvement n'est pas adapté, que tu vas dans une amplitude de mouvement trop grande. Tu as toujours des signes avant-coureurs qui t'indiquent qu'il y a quelque chose que tu fais qui ne va pas, et que si tu continues à le faire, eh bien, tu ne vas pas aller très loin. Et là, c'est le.
Faut pas faire la politique de l'autruche, en gros. C'est fermer les yeux dès que tu as une petite gêne sous prétexte que c'est normal. Il faut. Enfin, quand il y a une douleur, c'est jamais normal. C'est qu'il y a quelque chose qui la provoque et il faut savoir l'identifier et la questionner. Et jamais, jamais, jamais laisser une douleur, surtout qui persiste.
Totalement d'accord. Si tu as une douleur, si tu as une gêne, le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est pense à ma voiture qui prenait feu et n'en arrive pas à ce stade-là.
Pense à la sensation. Malheureusement, cette voiture, à l'heure actuelle, elle est à la casse. C'est fini pour elle.
Ouais, c'est
elle
fini
a eu une
pour
chouette
elle.
Vie, mais...
Il y a un moment où on ne peut plus la réparer, quoi. Et pour la petite anecdote, elle a failli me tuer plusieurs fois. Donc, mieux vaut ne pas en arriver là.
Donc, une fois vraiment, 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 quoi.
Vraiment.
Bon allez, bref, on digresse un peu trop, mon
gars. On digresse un peu trop. Donc voilà pour moi de mon côté ce que j'ai de notable. Quelque chose qui est intéressant peut-être, c'est on a dit qu'il fallait prévenir, mais pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi j'ai eu cette douleur au dos et quelle est la cause que j'ai identifiée et qui a corrigé ? Je pense que c'est important de dire ça.
Ouais, tu peux aller au bout de la réflexion, vas-y.
Pour moi, alors ça vient tout simplement d'un manque de récupération, tout simplement, et peut-être d'un volume un peu trop important sur les mouvements qui chargent eh bien, le bas de mon dos, donc tout ce qui va être soulevé de terre, hack squat, tout ça, j'ai peut-être un peu trop de mouvements comme ça, mais mon plus gros problème, c'est vraiment ma récupération. En fait, pour vous expliquer ma récupération, le problème, c'est que dans mes journées, j'ai littéralement zéro temps mort. Alors, ça fait un peu cliché, mais on va dire que je travaille énormément. En fait, je ne fais que ça de mes journées et j'ai jamais un jour off complet. Et mon corps, en fait, est toujours sollicité. Donc, tous les jours, je fais plus de 20 000 pas. Tous les jours, je m'entraîne extrêmement dur. Je n'ai jamais de moment où je vais me reposer. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème à un moment. En fait, j'ai plusieurs choix. J'avais deux choix là. Soit je réduisais mon travail, etc., pour me reposer un peu plus. Soit je réduisais eh bien, mon volume d'entraînement. J'adaptais les choses. Et ça revient un peu à se poser la question de quel est ton objectif principal ? Et moi, mon objectif principal, c'est tout simplement d'avoir ma salle de sport. Donc, j'ai fait le choix eh bien, de tout simplement baisser mon volume d'entraînement. Donc, mes séances seront moins longues. J'ai réduit quand même de 2 à 3 exos. Donc, vraiment, j'ai plus que 4 à 5 exercices par séance maintenant. Et voilà, je me concentrerai là-dessus. Et comme ça, ben, je pourrai récupérer beaucoup plus facilement. J'ai réduit aussi tout ce qui va être soulevé de terre, hack squat, tous les mouvements sur lesquels je n'étais pas en une série. Eh bien, je les ai passés en une série pour voilà, me permettre de récupérer au mieux de ces mouvements-là, tout simplement. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Rémi, sur ça ou pas ?
Non, non, mais tu réagis bien, en fait. C'est-à-dire que tu hiérarchises en fonction de tes besoins. Et tes besoins, pour le moment, c'est déjà de récupérer. Et donc, pour récupérer, ça va aussi de pair avec ton travail. C'est réduire dans un temps. Et ça passe par la réduction du volume, avec passer en one set sur certains exercices, en une série. Et ça te permettra, voilà, d'une part, de récupérer sur ta blessure et aussi d'accorder plus de temps à ton travail.
Ouais. Un jour, je ferai une journée, j'expliquerai un peu une journée type dans la vie de Denis Gallois. C'est pas très passionnant. Y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire des vlogs, ce genre de choses. Ma vie, elle est pas passionnante. Hein. Ça va se résumer en entraînement, travail et manger. Et encore, je travaille pendant que je mange. Donc, ça va pas être hyper passionnant. Bref, je pense qu'on a fait assez le tour pour moi. Je propose que Rémi, tu nous fasses un petit retour sur ta semaine, parce que autant je t'en avais parlé de moi, mais toi tu m'as rien dit sur ta semaine, donc je vais te découvrir en même temps qu'il y a les personnes qui écoutent le podcast.
Ouais, mais parce que c'est encore une semaine comme les autres. Alors, à la seule différence que lorsqu'on a tourné le podcast la dernière fois, j'étais malade comme un chien. Bah d'ailleurs, j'ai encore quelques séquelles, mais ça s'est vu au premier podcast où j'avais mon bonnet, j'avais mon casque, j'essayais de trouver un peu de chaleur comme je pouvais. Mais j'ai quand même fait le podcast, j'ai pu m'entraîner et en fait, j'ai encore quelques séquelles. Je pense que j'ai fait une grosse bronchite. Je dis ça parce que voilà, dans mon entourage, il y a eu des bronchites, donc c'est pour ça que j'identifie cette maladie. Mais aujourd'hui, ça va mieux et puis j'ai quand même pu m'entraîner sans trop de problèmes. Des difficultés par contre à dormir sur certaines nuits où ben, voilà, on tousse, et, enfin je tousse et donc du coup ça perturbe un petit peu mon sommeil. Mais très franchement, j'ai envie de dire comme la première fois, une semaine d'entraînement comme les autres où j'ai pu performer, où par contre j'ai pu me remettre en question sur une séance, ma deuxième séance push de la semaine, où elle va changer drastiquement parce que je prends plus autant de plaisir et ça, c'est un facteur important quand on fait une séance. On a beau avoir les meilleurs exercices, enfin, penser avoir les meilleurs exercices, d'ailleurs, c'est une nuance importante, mais il y a plein de paramètres qui font que si tu n'as pas l'envie de t'entraîner, que tu prends pas de plaisir à t'entraîner, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer et c'est le cas sur ma deuxième séance push. Mais voilà, je vais faire, enfin, je vais tester une autre séance en fin de semaine sur ce deuxième push et je verrai si ça correspond. Mais encore une fois, c'est modulable et je verrai si ça tient ou s'il faut changer encore autre chose. Mais voilà, c'est une semaine comme les autres.
Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, le paramètre en fait d'aimer son entraînement, d'aimer les exercices qu'on fait, c'est une variable qui est souvent négligée et qui pourtant est hyper importante. Parfois, il vaut mieux choisir un exercice qui va être un peu moins optimal,
Ouais, mais voilà,
mais
j'ai
qu'on va
guillemets
aimer
parce qu'on les
faire.
voit pas, mais
Ouais,
c'est
j'ai fait
guillemets,
les
guillemets,
guillemets, qui va être un peu moins optimal, mais qui du coup, eh bien, qu'on va aimer faire, parce que la progression sera toujours plus simple sur un mouvement qu'on aime faire que sur un mouvement qu'on n'aime pas faire.
tout à fait, ouais. Si je prends par exemple l'exemple du block pull, donc c'est un exercice qui apporte pas grand-chose en termes d'hypertrophie, mais que j'aime bien faire. Et pendant longtemps, je m'étais remis en question parce que je me disais, bon, est-ce qu'il a vraiment un intérêt, etc. Mais déjà d'une, je ne savais pas forcément quoi le remplacer. Et puis parce que j'aimais bien quand même le faire. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais le conserver, je vais apporter juste une variante. Donc j'ai mis des élastiques depuis. Mais pour autant, voilà, ce n'est pas un exercice qu'on pourrait qualifier d'optimal, encore une fois avec des guillemets. Mais c'est un exercice qui me procure du plaisir, donc que je continue à faire.
Ouais, c'est hyper important
Cette dimension-là, ouais.
cette dimension d'aimer un exercice. Et c'est une question importante, même quand je fais un programme, et je pense que toi aussi, il y a toujours une question, quels sont les exercices que tu aimes faire et quels sont les exercices que tu n'aimes pas faire? Et on va toujours privilégier les exercices que la personne aime faire, même si parfois ils ne sont pas forcément adaptés, par exemple à la morphologie, ou il y aurait des meilleures alternatives à disposition. Mais si la personne aime faire ses mouvements, eh bien elle progressera toujours beaucoup plus facilement sur ses mouvements. Et ce qui compte, c'est ça, c'est tout simplement de progresser dans le temps, de toujours essayer d'être meilleur à chaque séance. Et si par exemple, bah voilà, on programme des fentes, qui sont un super mouvement, mais que la personne n'aime pas faire ça du tout, eh bien ça va pas aller bien loin. Donc
Exactement, ouais. C'est exactement ça. Et même chose pour d'autres exercices, hein. On parle des tractions aussi. Beaucoup aiment avoir des
Les
tractions
tractions.
parce que c'est un exercice qu'ils aiment bien faire. Pour autant, bah, on partage le même point de vue là-dessus. Les tractions, c'est loin d'être l'exercice parfait pour l'hypertrophie du dos. Et à tort, hein, on pourrait penser que c'est salé, mais pas du tout. Et mais pour autant, si la personne aime ça, eh bien on va appliquer ce que la personne aime faire et on va pas non plus lui dire oh non, fais pas ça, c'est de la merde, mais il faut prendre en compte ce qu'elle dit.
Ouais, très 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 intéressant. Est-ce que tu as fait le tour du coup sur ta
Ouais, j'ai
semaine?
fait le tour, j'ai fait le tour. Déjà qu'on a fait une bonne intro, un bon
Ouais.
update de nos semaines là, donc on va passer à la prochaine partie.
Ouais. Du coup, donc la prochaine partie, c'est donc pour ceux qui ne l'ont pas vu ou ceux qui rejoignent. Donc j'avais mis une boîte à questions sur mon Instagram où les gens pouvaient poser des questions dans lesquelles ils voulaient qu'on parle dans le podcast. On en a sélectionné, je sais plus, 5 ou 6, un truc comme ça,
Ouais.
qui sont des questions qu'on a enfin, c'est pas qu'elles n'étaient pas toutes intéressantes, mais on a jugé celles qui nous semblaient le plus pertinentes et le plus intéressantes à développer, sachant qu'il y aura d'autres épisodes. Hein, donc voilà, si la question que tu as posée n'a pas été sélectionnée, on mettra d'autres boîtes à questions, on mettra d'autres choses, enfin, on fera d'autres épisodes où du coup, eh bien, on pourra en parler. Donc si tu ne vois pas que ta question a été sélectionnée, c'est pas grave, ça sera peut-être le cas dans d'autres épisodes. Tu as la liste des questions, Rémi, ou pas?
Ouais, je l'ai sous les yeux.
Ok,
Alors, la première,
vas-y, je te laisse.
doit-on peser cru ou cuit nos aliments?
Tu veux commencer ou pas?
Ah bah, je te la pose, donc je te propose d'y répondre.
Ok. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à peser leurs aliments cuits. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est plus facile. Dans les programmes, en général, on trouve souvent des trucs du genre 100 grammes de féculents cuits, et puis hop, comme ça englobe à peu près tout. Donc, tu mets tes pommes de terre, ton riz, tes pâtes, etc. C'est le choix de la facilité. Mais en réalité, pour avoir le plus de précision possible, ce qu'il faut, c'est toujours peser cru.
Ouais, tout à fait.
Vraiment peser cru, c'est ce avec lequel tu auras le plus de précision. Pourquoi? Parce que il va y avoir plusieurs choses qui vont impacter, eh bien, le résultat que tu vas avoir une fois que ça sera cuit. C'est-à-dire que si tu fais cuire 100 grammes de riz cru, tu vas voir que tu n'auras pas, en général, la conversion rapide, c'est x2 ou x3, etc.
Et
Tu n'auras
encore,
pas.
ça dépend, hein, ça dépend.
Voilà, ça dépend. Et tu n'auras pas toujours 200 ou 300 grammes de riz cuit. Pourquoi? Parce que ça va varier en fonction de plusieurs facteurs. Le premier, la variété de ton riz, tout simplement, entre du riz basmati, du riz complet, du riz thaï, etc. Ça ne va pas absorber l'eau de la même façon. Un autre élément important, c'est combien de temps ça va cuire.
Le temps de cuisson, hein,
Le
c'est
temps de
clair.
cuisson. Si, entre eh bien, un riz que tu vas faire cuire 10 minutes et un riz que tu vas oublier qui va cuire 30 minutes, tu vas
Ouais.
voir que le volume ne va pas être le même non plus. Donc, y a ça également comme paramètre. Et un autre paramètre aussi qui me vient à l'esprit, c'est souvent que les gens eh bien, font un meal prep, c'est-à-dire qu'ils font cuire, je sais pas, 1 kg de riz et après, bah, voilà, ils piochent dedans tout au long de la semaine pour faire leur gamelle. Sauf que tu vas faire cuire 1 kg de riz, on va dire que ça va te faire 3 kg cuits à peu près, et à chaque fois, tout au long de ta semaine, tu vas prendre, je sais pas, 200 grammes parce que c'est ça ta quantité par repas. Sauf que entre le lundi et je sais pas, le samedi, ton riz, ce qui va se passer, c'est qu'il va sécher. L'eau va s'évaporer, et donc en fait, petit à petit, eh bien, 100 grammes de riz cuit ne sera pas du début de semaine ne sera plus équivalent à 100 grammes de riz cuit en fin de semaine. Donc, il y a trop de paramètres qui font que ça va varier. Et donc, si tu pèses toujours ton riz cru, tu es sûr que tu as la bonne quantité, quoi qu'il arrive. Si tu mets 100 grammes de riz cru et que tu le fais cuire, eh bien, une fois qu'il est cuit, tu sais que tu as toujours tes 100 grammes de riz cru et ça n'a pas bougé. Et ça, que du coup, ça a fait 1 x 2, 1 x 3, que tu les fais cuire 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes, tu as toujours la même quantité. Et pour ceux qui demandent, oui, mais je fais un meal prep, comment il faut faire? Parce que c'est une question intéressante. Tu veux y répondre, Rémi, ou je continue sur ma
Ben non,
lancée?
mais vas-y, continue. Après, moi, je rebondirai sur deux, trois éléments, mais continue.
Ouais, vas-y. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, bah, tu fais cuire tes 1 kg de riz. Et après, tu fais un produit en croix et tu mets tout dans tes gamelles, hop, et comme ça, tu as tout qui est prêt. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on a fait avec Rémi quand on était en appartement. On faisait cuire nos quantités, parfois pour plusieurs jours. On faisait pas 100 grammes dans une casserole pour Denis, 100 grammes dans une casserole pour Rémi. Non, non, on faisait tout ensemble. Après, du coup, donc, on avait le total cru et le total cuit. Et puis après, une fois que tu as ça, tu as juste à faire un produit en croix et le multiplier par la quantité de chacun. Et puis c'est comme ça que tu peux très facilement faire ton meal prep. Donc, toujours peser cru, parce que c'est comme ça que tu auras le plus de précision et que tu auras le moins de variables au niveau des erreurs. Parce que déjà que les calories, ce n'est pas quelque chose de fiable, dans le sens où, voilà, si tu pars du principe que tu as maintenant ces 2500, en réalité, tu as déjà un facteur d'imprécision hyper important, parce qu'en fonction de ce que tu vas faire sur ta journée, ça va vachement varier. Les aliments aussi que tu vas utiliser. Eh bien, c'est très difficile d'estimer les calories. Donc, c'est toujours des estimations plus des estimations. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai mon repas qui vient de finir de cuire derrière. D'ailleurs, justement, j'ai des pommes de terre et du poulet pour ceux que ça intéresse. Ce ne
Ouais, bah
sera...
méfie-toi quand même que ça ne crame pas.
Non, c'est un cuiseur vapeur, ça devrait aller cette fois-ci. Et je sais plus ce que je disais. Mais du coup, donc, il y a déjà eh bien, un gros facteur d'imprécision dans l'estimation des calories. Et si en plus on en rajoute en pesant les choses cuites, eh bien, au final, on se retrouve avec quelque chose qui est très éloigné de la réalité.
Exactement. Alors moi, juste pour compléter, excusez-moi. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est de peser des trucs cuits et d'autres crus. Parce que si on se met en suit la logique, quand on pose la question de peser cru ou cuit, est-ce que ça ne concerne que les féculents ou que les viandes? pour que ça soit plus simple pour tout le monde, mieux vaut se dire que tous les aliments que vous avez dans votre diète, vous les pesez crus. Comme ça évite voilà, toute imprécision, comme tu le disais. Donc, parce que quand on dit oui, on va manger 200 grammes de viande, mais est-ce que c'est 200 grammes crus, cuites? Encore une fois, il y a cette variable-là. Ensuite, par rapport au meal prep, quand tu disais, voilà, mieux vaut faire cuire sa quantité et après on pioche petit à petit dans la semaine, eh bien, ce qui est encore mieux, c'est une fois qu'on a fait le meal prep, c'est aller au bout du truc, c'est-à-dire on prend notre tupperware et on sépare dès la fin de la cuisson dans nos gamelles. Comme ça, bah, on a juste à prendre directement nos gamelles et on n'a pas à ressortir le riz du frigo, par exemple, et prendre notre quantité du jour. Mieux vaut, quand on est en cuisine, quand on fait nos meal prep, faire tout d'un coup et comme ça, après, on est tranquille aussi pour la semaine.
Ouais, c'est intéressant. Après, la plupart des gens en fait qui font cuire un kilo de riz d'un coup, c'est que souvent ils ne sont pas tout seuls et du coup tout le monde pioche dedans. C'est pour ça que les gens ont tendance à faire
Yes.
comme ça.
Ah, mais le
Mais c'est
produit en
vrai.
croix, comme tu dis, ouais.
Mais sinon, voilà, la meilleure technique, c'est le produit en croix et de tout faire direct. Je pense qu'on a fait le tour
Oh
de la
là là, on a
question.
fait, voilà, je pense que là, on a fait le tour
Mais
en long, en large, en travers.
c'est vrai que oui, peser toujours tout cru et adapter donc la valeur toujours en peser cru. Certains aliments, par exemple comme les pommes de terre, le poids cru et cuit va très peu varier parce qu'elles contiennent déjà de l'eau. Mais utilisez toujours quand même la valeur pesée crue pour les pommes de terre, etc. Pesez toujours tout cru et utilisez la valeur nutritionnelle qui correspond à l'aliment pesé cru parce que sinon vous allez avoir des surprises très 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 fréquemment, même au niveau de la viande. Hein,
Exact, c'est ce que j'allais dire quand tu parles des valeurs nutritionnelles. Basez-vous toujours sur le cru, comme ça au moins vous êtes peinard.
Au niveau de la viande, c'est pareil. On a déjà tous connu le steak qu'on met dans la poêle et puis qui
Qui
il
est
prend.
balèze au début et puis après qui
Ouais.
réduit.
Et après, il fait un mini cut express. Mais donc voilà, pesez toujours cru et fiez-vous toujours aux valeurs nutritionnelles qui sont crues. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur la deuxième question? Alors, c'est toi qui as toutes les questions. Moi, je les ai notées, mais je les ai pas complètes.
Alors, ben, je pose la deuxième, mais je vais essayer d'y répondre.
Ouais, vas-y, commence par y répondre. Pose-la et réponds-y du coup.
Alors, la question, où caler les séances d'abdos? Alors, moi, j'ai envie même de rajouter, d'aller un peu plus loin dans la question, c'est où caler et où placer les abdos dans une séance, dans ces séances. Alors, déjà, il faut savoir quel objectif on cherche derrière les abdos, si c'est les faire pour les faire ou si c'est qu'il y a un vrai intérêt de travail derrière. Parce que bien souvent, les gens pratiquent les abdos à, comment dire, sous prétexte qu'il faut les faire, mais et ils vont pas forcément appliquer la même rigueur sur les abdos que sur les autres groupes musculaires. Donc, j'aurais tendance à dire, les abdos, c'est comme le reste, il faut appliquer cette même rigueur, donc l'application d'une progression de séries effectives de travail et pas les faire par défaut. Ensuite, où les placer? Je la prends un peu à l'envers, mais où les placer? Si vous êtes sûr de les louper en fin de séance, ben, ne les faites pas en fin de séance, parce que si, comme je vous l'ai dit, vous les faites un peu par défaut, placez-les en début de séance, comme ça au moins vous êtes sûr de les réaliser. Et pour où les caler? Dans la semaine, ça va dépendre un petit peu de votre programme. J'ai tendance, enfin, je fais mes abdos sur mes séances jambes parce que c'est là où je trouve que ça va le mieux. Mais très franchement, vous pouvez les caler aussi sur d'autres séances du moment que ça colle aussi à ce que vous souhaitez faire. Si vous êtes en upper lower, bah, peut-être que les abdos, il est préférable de les placer dans votre séance upper. Après, si vous voulez répartir un petit peu les exercices et pas trop faire d'exercices sur une séance upper et que vous préférez en faire plus sur votre séance lower, et ben rajoutez peut-être les abdos sur cette séance lower. Il ne va pas y avoir d'impératif. Ce qu'il va falloir faire, par contre, c'est comme je le dis, c'est appliquer cette rigueur de les faire et d'appliquer une progression millimétrée, pas millimétrée, mais mesurée sur votre séance, enfin sur votre semaine d'entraînement.
Ouais, c'est intéressant. Alors moi, j'aurais résumé les choses peut-être un peu plus rapidement. J'aurais dit où et quand faire les abdos, peu importe du moment que tu les fais.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est un peu ça, hein, parce que tu peux les mettre, tu peux les programmer sur à peu près n'importe quelle séance. Ce qui va compter le plus, c'est que tu les fasses au final. Certains vont les faire en fin de séance, d'autres en début de séance, d'autres vont, eh bien voilà, pas forcément les mettre sur une de leurs séances push-pull legs, upper, lower, peu importe, et vont tout simplement eh bien, les faire, je ne sais pas, venir juste à la salle pour les faire, ou les faire chez eux, ou peu importe, du moment qu'ils sont faits. Ce qu'il faut, c'est tout simplement pas les skipper. C'est un peu comme les mollets, hein. Et souvent, les mollets sont faits en fin de séance. Du coup, ils ont tendance un peu à sauter. Peu importe, ce qu'il faut, c'est les faire, tout simplement.
Oui, c'est ça, parce que bien souvent, on reçoit des messages aussi. Ouais, est-ce que les abdos, je dois les faire quand même en prise de masse? Ben, pose-toi la question pour les bras. Est-ce que tu dois faire les bras aussi si tu es en prise de masse? Les abdos, c'est comme n'importe quel autre groupe musculaire. Il faut les travailler tout le temps. C'est pas à la carte. On ne choisit pas de les faire en fonction de si on est en sèche ou en prise de masse. Dans tous les cas, il faut les faire.
C'est vrai que j'ai jamais compris ce mythe que les abdos sont des muscles différents des autres. Et du coup, il faut les entraîner différemment, avec des fourchettes de répétition plus longues, tous les jours, etc. Non, c'est est-ce que tu fais les pecs tous les jours en série longue?
C'est ça.
Non. Est-ce que tu fais les biceps tous les jours en série longue? Non. Ben, les abdos, c'est exactement la même chose. Et si tu veux avoir des abdos visibles, il faut aussi que tu les développes en volume parce que eh bien, tu peux être très sec, mais ne pas avoir de volume sur tes abdos et donc eh bien, avoir des difficultés à les voir tout simplement. Donc non, il faut les entraîner, il faut que du coup tu prennes du volume dessus. Il n'y a jamais eu personne qui a eu des beaux abdos sans avoir de volume dessus. C'est aussi simple que ça. Donc il faut les entraîner comme tous les autres muscles, tout simplement.
Donc, c'est-à-dire alterner entre des jours de repos et des jours où tu les entraînes. C'est pas on va les faire tous les jours parce que je suis en sèche et il faut les faire tous les jours. Il faut les appliquer comme n'importe quel groupe musculaire. Et petite mention spéciale, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin sur les exercices d'abdos. Enfin, ton exercice préféré pour les abdos, Denis, comme ça au moins on donne un exercice chacun.
Bah, je pense que c'est le même. Je pense que c'est le même. C'est le crunch à la poulie, de toute façon. Ouais. Le crunch, en fait, un bon exercice d'abdos, c'est un exercice qui va tout simplement sur lequel on va pouvoir appliquer la surcharge progressive, où on va avoir peu de facteurs limitants et sur lequel ça va être facile de progresser. Le crunch à la poulie, bah, c'est l'exercice qui réunit un peu toutes ces conditions. Et avec lequel, eh bien, du coup, on va pouvoir appliquer la surcharge progressive de manière assez douce chaque semaine, dans lequel on va pouvoir travailler en série assez courte, parce que faire du crunch au sol, c'est bien, mais au bout de 2 semaines de muscu, tout le monde peut réussir à faire 30, 40, 50, 1000 crunchs. Donc voilà, il y a crunch à la poulie, on va dire que c'est l'exo le plus pratique. Après, en fonction des salles et du matériel à disposition.
Ouais, on peut avoir des bonnes machines. Alors, par contre, il faut bien les sélectionner parce que certaines sont même contre-productives. Donc, j'ai envie de dire, là, c'est ouais. Un peu justement à la carte pour le coup. Là, il faut choisir la bonne machine où on va avoir peu de contraintes au niveau des lombaires. Et souvent, ce sont des machines à abdos qui sont horizontales. Ce sont des machines où on a quand même un étirement et une contraction et pas juste une phase de contraction. Parce que bien souvent, quand on voit des machines à abdos dans les Basic Fit ou autres, ce sont des machines qui sont limitées dans l'étirement et qui vont même mettre des contraintes dans les lombaires. Donc attention à celle-ci.
Alors, la seule machine à abdos qui est vraiment bien et avec lequel du coup, donc tu es assis. Pour moi, c'est la Nautilus. Alors, les gens vont dire oui. Il n'y a pas Nautilus en France. Alors, figurez-vous que la salle où je l'ai essayé était en France, à Nice, lorsque j'ai été à Nice, du coup, il y a 2 semaines maintenant. Cette machine est vraiment bien. Elle est très bien faite. Ensuite, tout ce qui va être Hammer, Hoist, etc. Donc, j'ai les deux dans ma salle. Elles ne sont pas ouf. Ouais. Et pour moi, la meilleure machine à abdos que j'ai pu tester, c'est la Life Fitness allongée, où en fait, au final, on est allongé. Je l'ai déjà partagé sur mon Insta.
Ouais, justement, je pense à elle.
On est allongé et en fait, on fait un mouvement de crunch.
Crunch au sol, mais lesté.
Ouais, qui est lesté et avec lequel, du coup, eh bien, la machine, de la façon dont elle est conçue, on peut ajouter facilement du poids et le mouvement reste naturel. En fonction, alors bien sûr, parce que moi, j'aime bien tester les machines dans tout leur ensemble, il y a un épi de chargement du poids. Si on charge sur l'épi, eh bien, ce qui va se passer, c'est que du coup, donc, la courbe de résistance va faire en sorte que le maximum de la tension va arriver eh bien, en fin de mouvement, ce qui peut être intéressant. Mais on peut facilement modifier la courbe de résistance en chargeant les poignets. Ouais. Et du coup, c'est ce que je fais aussi. Et je module en fait ma courbe de résistance comme ça. Et en fait, c'est une très bonne machine. C'est la machine, du coup, donc Life Fitness à abdos, qui est vraiment très bien et que j'aime beaucoup. Et je pense qu'en plus, elle ne doit pas coûter si cher que ça.
Je pensais justement à elle quand j'ai parlé de ça. Après, bon, mieux vaut faire des crunchs au sol ou des crunchs sur une Swiss ball si vous n'aimez pas faire les crunchs abdos à la poulie haute et que vous n'avez pas de machine comme on vient de le faire. Mieux vaut les faire avec, on va dire, des choses bien rudimentaires et ça sera bien mieux que de ne pas les faire.
Ouais, c'est vrai que le crunch à la poulie, même si c'est un super mouvement, c'est l'un des mouvements qui est les plus mal exécutés en salle de sport.
Et puis certaines personnes n'osent pas aussi le réaliser parce que c'est une position qui est un peu précaire et voilà, et certaines personnes ne souhaitent pas non plus se mettre dans des positions comme ça, ce qui est complètement compréhensible. Donc voilà, il y a d'autres alternatives.
Ouais. En général, donc pour expliquer un peu ce que je fais avec mes clients en coaching, pour ceux qui ont du mal à maîtriser le mouvement de crunch, en général, je commence, pour ceux qui vraiment n'ont pas l'habitude, hein, je leur fais faire du crunch au sol pour vraiment apprendre les bases du mouvement. Après, en général, on passe sur un bosu ou un ballon, donc une Swiss ball. Et une fois que le mouvement est vraiment bien maîtrisé, eh bien, à ce moment-là, on peut passer sur la poulie. Donc, si tu n'arrives pas au crunch à la poulie, c'est peut-être que tu as sauté un peu les étapes et que tu devrais reprendre peut-être en essayant de faire du crunch sur ballon ou sur bosu avant ou même repartir du sol pour bien maîtriser le mouvement. Parce que, petit tips, mais si lorsque tu fais ton crunch, tu as tendance à t'exploser la tête contre le sol quand tu fais ton crunch à la poulie, eh bien, c'est que le mouvement n'est pas bon et oui. C'est que du coup, tu n'enroules pas correctement ton buste pour contracter les abdos.
Exactement. Bah, je termine vite fait là-dessus, après on passe à la prochaine. Tu as totalement raison de mettre étape par étape la progression de faire des abdos. Commencer sur quelque chose de simple, au sol, sur bosu, sur Swiss ball, et après de passer à la poulie haute, puisque comme n'importe quel exercice, il faut que votre corps puisse avoir un étirement et une contraction. Et pour les abdos, c'est la même chose. Il faut pouvoir avoir du coup un déroulement de votre colonne et après un enroulement pour que vous puissiez les travailler efficacement. Mais voilà, la méthode que tu viens de donner, elle est très bien. Passer d'abord au sol, puis après d'augmenter avec la Swiss ball. Et après de passer à la poulie haute. Voilà, on a bien, bien
démarré. Ouais, j'avais encore des trucs à rajouter, mais si je continue à rajouter, à mon avis, on ne va jamais en finir.
En gros, ça, c'est nous tout cracher, ça. On pourrait parler de ça pendant des heures et des heures, c'est fou. On pourrait toujours trouver un petit truc à rajouter.
C'est ça. Alors, je vais finir très rapidement et après, on passera à la question suivante. Mais en gros, ce qu'il faut, c'est respecter la fonction des abdos, qui est en fait tout simplement l'extension et la flexion de la colonne. Ouais. Et à partir du moment où on respecte la fonction d'un muscle, eh bien, on le recrute. C'est aussi simple que ça. Voilà, je pense que ça termine bien le petit... On est parti d'une question et après on a...
Hop, ah ouais, on a... Ça c'est nous tout craché. Mais ça, en même temps, c'était un peu le rôle du podcast, hein, de prendre le temps de répondre à une question et même de digresser encore une fois sur la question pour apporter un maximum d'infos. Allez, on passe à la troisième question.
Ouais, troisième question.
2-2, faut-il baisser les calories les jours de repos?
Ah, les jours où on ne s'entraîne pas.
Ouais,
okay. Les jours off. Oui, ben, j'ai lu les questions, mais je l'avais oublié celle-là. Alors, pour ça, tout va dépendre de l'approche qu'on a. On n'est pas obligé de le faire et ça va dépendre aussi de si on est en surplus calorique, si on est en déficit calorique. Mais en tout cas, ce qui va varier aussi entre un jour on et un jour off, c'est souvent la répartition des macros. Donc les macros, glucides, protéines, lipides. Voilà. Donc c'est un sujet qui est assez vaste. Je dirais que lorsqu'on est en déficit calorique, cela peut être une bonne solution de baisser ses calories les jours de repos et du coup donc de répartir les macronutriments différemment. En général, les jours d'entraînement, on est un peu plus haut en glucides et un peu plus bas en lipides. Et les jours où on ne s'entraîne pas, on est un peu plus haut en lipides et un peu plus bas en glucides. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et en prise de masse, alors ça dépend des cas. Par exemple, encore une fois, je vois par rapport à moi-même. Moi, donc, j'ai le même nombre de calories en jour on et en jour off. Et par contre, ce n'est pas le cas chez toutes les personnes que j'ai en suivi. Certains oui, certains non. Tout va dépendre souvent de la personne. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que, on va dire que dans le cas où la personne va avoir le même nombre de calories en jour on et en jour off, c'est pareil, il va y avoir juste une répartition des macros qui va être différente. Je pense que j'ai résumé assez rapidement. Tu as peut-être des choses à ajouter ?
Non, mais exactement, c'est ça en fait. Il faut savoir pourquoi on fait une variation entre nos jours on, enfin entre nos jours d'entraînement et nos jours où on ne s'entraîne pas au niveau de nos calories. Si, comme tu l'as dit, on est dans un objectif de perte de poids, ça peut être bien de justement augmenter, enfin d'avoir un peu plus de calories sur les jours où on s'entraîne et un peu moins sur les jours où on ne s'entraîne pas. Ça permet du coup d'avoir un déficit qui est peut-être un peu moins agressif au lieu d'avoir une moyenne sur tous les jours. Ça permet voilà, d'avoir des petites variations sur la semaine et donc d'apprécier un peu mieux le déficit. Après, en surplus, c'est la même chose. Si c'est une personne qui a du mal à prendre du poids, il n'y a pas forcément d'intérêt à alterner entre jour on, jour off et d'avoir une variation au niveau des calories. Mieux vaut avoir quelque chose d'assez constant où la personne, voilà, elle sait qu'elle mange bah, suffisamment tous les jours et du coup, son surplus, il va bien se passer.
Ouais, après, il y a une variante aussi qui est hyper importante, c'est le cas par cas. Pour
Ouais.
donner un exemple concret, j'ai une personne du coup donc en suivi qui est en déficit calorique et qui par exemple a le même nombre de calories en jour on et en jour off parce qu'on joue sur d'autres paramètres qui, eh bien tout simplement, qui est que lorsqu'elle ne s'entraîne pas, eh bien,
Elle va marcher plus, elle va se
c'est
dépenser.
ça, elle augmente son nombre de steps, elle fait du coup donc elle fait en général 15K steps sur ces jours-là. Donc les jours où elle ne s'entraîne pas, et du coup donc elle a une dépense énergétique qui est un peu plus importante, et à côté de ça lui permet d'avoir un volume alimentaire qui est eh bien toujours assez intéressant, parce que le fait d'avoir les lipides un peu plus haut, en général ça diminue aussi le volume alimentaire, et du coup bah voilà, ça lui permet d'avoir un repas qui a toujours un volume alimentaire qui est conséquent, et ça lui permet toujours de suivre sa diète. Le proverbe que j'aime beaucoup utiliser en termes de diète, c'est la meilleure diète pour atteindre ton objectif. C'est pas forcément celle qui est optimale, mais c'est celle que tu arrives à suivre. Et en fait, c'est exactement ça. Chacun va avoir des spécificités. J'ai aucune personne en suivi qui a une diète identique. Parce que tout le monde est différent, tout le monde ne travaille pas de la même façon, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, tout le monde n'a pas les mêmes préférences alimentaires, tout le monde ne gère pas la faim de la même façon, etc., etc. Et du coup, il faut toujours adapter et trouver ce qui est le mieux. Donc, pour répondre à la question, en fonction de ton objectif et en fonction de tes facilités ou non à tenir ta diète, eh bien oui, ça peut être une solution qui est intéressante. Souvent, par exemple, en prise de masse, pour les gens qui ont du mal à manger, le fait de garder du coup donc un nombre de calories constant sur les jours on et sur les jours off, ça permet d'avoir eh bien un peu moins aussi de volume dans l'assiette. Parce que du coup, ben, on n'a pas besoin de forcer autant au niveau du surplus calorique. Donc il y a plein de choses et les deux sont possibles. Il faut juste que tu vois toi par rapport à ta situation, ce qui est le mieux pour toi et ce qui te convient le mieux. Et adapter au final en fonction de ce qui te convient le mieux.
Oui, tout à fait. Non, c'est très très bien. C'est exactement ça. C'est vraiment du cas par cas. Il faut individualiser, sachant que certaines personnes aussi ne sont pas forcément des gros mangeurs et aiment bien justement avoir des jours où ils mangent un peu moins et peuvent avoir aussi une variation entre leur jour on et leur jour off de 500 calories ou voire plus, hein. Ça peut être quelque chose d'envisageable. Pareil sur des personnes qui sont sur des sèches. Avoir des fluctuations entre leur jour on et leur jour off, ça dépendra essentiellement de leurs dépenses, puisque c'est un facteur qu'on va énormément solliciter, l'augmentation de la dépense quand on fait une sèche, pour justement avoir un volume important dans les assiettes et conserver un maximum de calories.
Je suis totalement d'accord avec toi. Après, j'ai encore l'impression qu'on va digresser,
Ouais.
mais dans un cadre d'un surplus ou d'un déficit calorique, il faut jamais réfléchir au nombre de calories journalier. Ce que je conseille de faire, c'est plutôt de viser sur une plus longue période. En
Hebdomadaire, de
général,
façon hebdomadaire.
voilà, en général sur une semaine. C'est-à-dire que y a trop de personnes qui, dès qu'elles vont faire un cheat, quelque chose comme ça va être la fin du monde. Mais au final, ce qui compte, c'est que si à la fin de ta semaine, tu es en déficit calorique, donc si tu fais le bilan de tous tes jours et qu'à la fin de la semaine, tu es en déficit, eh bien, tu es toujours dans ton objectif. Et là, c'est la même façon de faire lorsque tu répartis tes calories entre tes jours on et tes jours off. Tu peux très bien être à maintenance calorique en jour on et en surplus calorique de, je sais pas, 500-600 kcal en jour off. De toute façon, ce qui compte, c'est qu'à la fin de la semaine, tu sois en déficit calorique.
Tout
Donc,
à fait.
tout est possible. Ce qu'il faut, c'est juste pas forcément réfléchir sur une approche journalière, mais sur une approche un peu plus importantes. En général, à la semaine, en mois, c'est un peu trop. Mais voilà, ce qui compte, c'est de voir son nombre de calories sur une plus longue période. Et tout de suite, les choses deviennent beaucoup plus simples à comprendre.
Ouais, exactement. Les gens, je dis les gens, mais dire, c'est normal aussi de raisonner de cette façon-là, se dire que quand on mange un certain nombre de calories journaliers, on pense, enfin certaines personnes pourraient penser à tort, qu'à la fin de cette journée, les compteurs se remettent à zéro et du coup on repart sur une nouvelle journée. Or non, il y a quand même toujours une histoire de régulation et c'est pas au jour le jour qu'il faut compter, c'est ce que dit Denis. Il faut bien faire la moyenne de ces jours et si bah, par exemple comme tu dis, il y a un jour où tu es en cheat, eh bien peut-être que sur les autres jours, si tu redescends sur ce que tu as l'habitude de manger, eh bien ça va se réguler et si tu es en déficit, à ce moment-là, eh bien, ça va se réguler et se remettre dans le droit chemin. Donc, il ne faut pas être fataliste et se dire, bon, bah voilà, sur une journée, j'ai augmenté, enfin, j'ai dépassé ce que je devais manger. Eh bien, ce n'est pas grave. Les jours d'après vont être là pour réguler tout ça.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça aussi que la plupart des gens, parfois, il y en a qui savent qu'ils vont faire des cheats. Et du coup, ils mangent pas de la journée ou alors pour du coup essayer de compenser. Mais ce n'est pas très grave. Ou alors ils ont mangé toute leur journée et puis le soir ils ont un restaurant qui n'est pas prévu, etc. Et tout de suite ils sont là, oh non, demain je ne vais pas manger. Non, si ta diète est bien faite, logiquement ça va se compenser sur les autres jours, tu vas pouvoir facilement le compenser. N'est pas une approche juste sur quelques jours, mais une approche plus sur le long terme. De toute façon, à partir du moment où on comprend que la progression, la musculation, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur la durée, bien tout bien. Devient beaucoup plus simple. C'est comme, je prends l'exemple de ma blessure. À ma place, il y en a qui se disent « Oh putain, il est blessé, il ne peut plus faire ses entraînements, etc. » En fait, je sais déjà que ça va être juste une petite période. Je sais déjà que je fais ce qu'il faut pour que les choses s'améliorent. Voilà, il y a juste une petite période où je ne vais pas pouvoir m'entraîner de la façon dont je veux. Mais ça va très vite revenir à la normale. Et au pire, même si pendant, je ne sais pas, 3-4 semaines, je n'ai pas pu m'entraîner comme je voulais, bien 3 ou 4 semaines, c'est quoi sur déjà eh bien, plus de 10 ans, même plus de 11 ans maintenant de ma pratique. Et vu comme ce n'est pas quelque chose que je vais faire, enfin voilà, je ne vais pas m'arrêter, je compte le faire toute ma vie, je compte m'entraîner toute ma vie. Donc au final, je ne sais pas, mais si je m'entraîne pendant 60 ans, 3 ou 4 semaines sur mes 60 années de pratique, ça sera quoi? Donc, il faut toujours voilà, penser sur le long terme et pas sur le court terme. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour cette fois.
Ouais, on a bien fait le tour. C'était bien, c'était une très bonne réponse, je pense, qu'on a apportée. Je te pose la suivante.
Je sais pas, je sais plus ce que c'est les questions.
Alors, je te la pose. Meilleur complément entre la whey, la créatine et le collagène?
Ah oui, ok. Alors ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Alors moi, je suis curieux de connaître ton point de vue en premier.
Enfin, je sais pas. D'abord, j'aimerais avoir encore un peu plus de vision globale avant de penser complément. Est-ce que déjà la nutrition c'est ok? Déjà, tu vois, si on fait avec le petit signe le plus important, d'abord nutrition, après complément. Après, quand on regarde le spécifique, donc sur les trois compléments qui nous sont cités, déjà pourquoi avoir choisi ces trois-là? Parce que est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui pourraient rentrer dans l'équation? Ensuite, si on répond vraiment spécifiquement à la question, entre la whey, la créatine et le collagène, il faut savoir aussi pourquoi on les prend. Ça, c'est encore une autre question qu'on pourrait dire, enfin se poser. Et si tu veux ma réponse sur ces trois compléments, je dirais collagène, créatine, whey. Mais bien sûr, dit comme ça, ça ne donne pas forcément d'informations. Il faudrait que je t'explique aussi pourquoi. Mais j'attends d'abord de savoir toi aussi ce que tu
Alors, ma vision des choses, en fait, sur les compléments alimentaires, c'est que le complément alimentaire qui te sera le plus efficace, c'est eh bien celui que tu ne retrouveras pas dans ton alimentation de base.
Ouais, ouais, exactement.
C'est-à-dire que ça va pouvoir varier. Parmi les trois que tu as mis, imaginons que eh bien, dans ta diète, tu n'aies pas suffisamment de protéines. À ce moment-là, eh bien, ce sera plus intéressant pour toi de prendre de la whey en priorité qui te permettra d'avoir eh bien, un peu plus d'apport en protéines et du coup d'avoir une meilleure progression. Pareil, tu mets collagène, créatine, mais je ne sais pas si tu as une carence en zinc dans ton alimentation, ça sera plus important pour toi de prendre du zinc en premier dans ton alimentation. Donc, les meilleurs compléments, comment choisir ces meilleurs compléments? Eh bien, c'est tout simplement en choisissant ceux que tu ne retrouves pas dans ton alimentation. Et effectivement,
ceux qui répondent à un besoin.
Voilà, c'est ça. Et ceux qui, parmi les trois que tu as donné, on va dire que pourquoi Rémi a donné cette liste ? Parce que le plus simple à avoir dans ton alimentation, c'est en général la protéine. Il y a très peu de pratiquants, il y a très peu de pratiquants qui ont des carences en protéines. Les gens ont même tendance souvent à manger beaucoup trop de protéines.
Beaucoup trop de protéines, ouais. Parce qu'ils ne comptent pas leurs protéines végétales. Mais bon, ça, c'est encore un autre
sujet. Ouais, c'est un autre sujet. Mais, et du coup, donc, effectivement, derrière, la créatine et le collagène vont être deux compléments en fait, que tu vas avoir du mal à retrouver dans ton alimentation. La créatine, il va falloir que voilà, tu consommes des quantités astronomiques de viande pour avoir, on va dire, 5 grammes par jour. Et pareil pour le collagène, si tu vas avoir suffisamment de collagène, il va falloir que tu consommes une grande partie de peau de poulet, peau de poisson, etc. Et en plus, le collagène sous ces formes-là ne sera pas bien assimilé parce que du coup, voilà, l'avantage du complément du collagène, c'est qu'il est hydrolysé pour être mieux assimilé. Donc voilà, dans un premier temps, vois ce qui te manque dans ton alimentation, vois là où tu as des carences. Et ensuite, en fonction de ce à quoi tu as du mal à avoir tes apports, eh bien, complémente-toi dans ces compléments-là. Mais il y a certaines personnes qui n'auront jamais besoin de prendre de protéines. Il y a certaines personnes qui n'auront jamais besoin de prendre du zinc, ce genre de choses. Mais par contre, voilà, il y a, enfin, c'est ma vision des choses du coup, sur les compléments. Et je pense que c'est comme ça que tout le monde devrait appréhender, enfin, voir pour choisir ses compléments.
Exactement. Non, je pense que là, tu as fait une super synthèse de ce qu'étaient les compléments alimentaires. Il faut d'abord voilà, que ça réponde à un besoin auquel votre nutrition ne répond pas ou ne peut pas répondre. Et de là, en découle l'optimisation avec la prise de compléments alimentaires. C'est vrai que collagène et créatine seraient, parmi ces trois-là, ces trois compléments, les compléments qui seraient le plus important de prendre. Mais encore une fois, voilà, il faut que ça corresponde. Donc ça, c'est vraiment une question qui est personnelle.
Ouais, je pense qu'on peut, peut-être parler des compléments que nous, on prend.
Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, alors là, c'est... Ouais, si tu veux.
Je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que tu veux commencer, Rémi ?
Oui, si tu veux. Alors moi, j'ai une optique prévention et santé des articulations plus. Donc, je vais vraiment me tourner vers ça. Donc, j'ai du collagène, bien sûr, type 1, type 2. Je prends de la glucosamine. Et après, je prends également oméga 3, multivitamines, multiminéraux. Je pourrais expliquer pourquoi aussi je prends un multivitamine et un multiminéraux. Et après, pendant mes entraînements, je prends de la maltodextrine et j'ai de la protéine en poudre, mais que je prends peu, en fait. Je me rends compte que j'en prends peu et je pense avoir fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Et de la créatine, pardon. Je prends aussi la créatine. Ouais.
Alors, j'ai à peu près les mêmes. En termes, du coup, donc d'articulation, je vais avoir collagène, type 1, type 2, glucosamine. J'ai de la chondroïtine aussi, qui est en fait ensemble. Et créatine, j'ai de la malto pendant mes entraînements.
Putain, mais c'est fou, il a les mêmes que moi, quoi.
J'ai de la whey, et pour la petite anecdote, j'ai acheté de l'ashwagandha. Alors, on ne voit pas.
C'est... Ah non, ne me parle pas de ce complément alimentaire.
Alors, pourquoi j'ai fait ça il faut savoir que, je ne sais pas pourquoi, mais mes DM ont littéralement explosé à propos de l'ashwagandha. Ah, oui, ouais. C'est bien, machin et tout. Et du coup, ma réponse était toujours la même. Est-ce que tu en as besoin ? Clairement, c'est le dernier de ma liste des compléments. Et du coup, il faut savoir que donc, j'ai été acheter un shaker il n'y a pas longtemps, shaker biotech. Ici, il n'y a que des biotech et des citech en Hongrie. Et en fait, je m'entends très bien avec le mec qui s'appelle Aaron, qui est un des seuls qui parle en anglais, qui gère le shop. Et ici, les prix au niveau des compléments sont super bas. La première fois, du coup, quand j'étais dans le magasin, j'ai acheté une ceinture. Pour vous dire, donc une ceinture de force, je l'ai payée 5 euros. Et le shaker, alors j'ai plus le prix, mais c'est pareil, je ne l'ai même pas payé 1 euro. Et je vois, du coup, donc, il avait de l'ashwagandha. Et j'ai pensé aux personnes qui m'envoyaient leur message. Et en plus, j'étais, juste avant d'arriver dans le magasin, j'étais encore en train de répondre à quelqu'un. Et du coup, donc, j'ai vu Aaron et j'ai dit « Ah tiens, t'as de la ashwagandha, je vais t'en prendre un paquet pour essayer. » Et en fait, ce qui est intéressant, donc, il y a certains bénéfices à la ashwagandha, etc. Et moi, je traque absolument toutes mes données. Donc, voilà, j'ai donc la Oura Ring, etc., qui me permet de traquer des données, d'autres données que ça. Et je me suis dit, on va faire eh bien, un avant et après Ashwagandha, voir s'il y a réellement des effets positifs. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé. Il ne s'est rien passé.
J'en avais pris moi aussi.
Il y a eu genre littéralement zéro différence. Donc je vais aller jusqu'au bout des 2 mois parce que voilà, c'était un peu le truc. Et après, je ferai une revue détaillée, un peu plus en profondeur de mes données. Après, si vraiment ce n'est pas intéressant, je ne le ferai pas. Mais en gros, j'ai décidé de tester. Et mon avis sur la Ashwagandha n'a pas du tout changé. Du moins pour le moment. Et on verra bien. Mais je ne sais pas pourquoi il y a eu tant de hype. C'est vrai que...
C'est un produit nouveau et certains ont voulu peut-être le prendre comme le complément du moment, etc. Et tu sais, c'est toujours un aspect marketing qu'il y a derrière. Hein. Un business peut-être qui s'ouvre, une opportunité pour faire péter l'ashwagandha.
Encore une fois, c'est pareil. L'ashwagandha, pourquoi il y a autant de hype autour de ce complément? Il y a plein de plantes qui sont utilisées pour faire des compléments alimentaires. Pourquoi l'ashwagandha en particulier? Parce qu'en fait, c'est la seule plante avec laquelle la littérature scientifique s'accorde à dire qu'il y a des effets bénéfiques qui ont été prouvés. C'est le seul. Ça veut dire que tous les autres, ça ne sert à rien. Mais c'est pour ça. Mais encore une fois, c'est un peu... il ne faut pas s'attendre... Quand la littérature scientifique trouve des augmentations du taux de testo, c'est des choses qui sont minimes. C'est vraiment genre votre taux de testostérone, déjà qu'il n'est pas très haut de base, il va monter de 0,001%. C'est vraiment ridicule, ce qui fait que vous n'allez pas sentir de différence. Alors certains diront oui, tout est bon à prendre, etc.
C'est vrai, mais ça peut s'entendre.
Ce qui est vrai, mais c'est que la plupart du temps, il y a plein d'autres points à optimiser avant ça. Et il y a un dernier complément que je n'ai pas dit, c'est le zinc. Je prends du zinc aussi, zinc magnésium. Et par exemple, si vous voulez augmenter votre testostérone, c'est beaucoup plus intéressant de voir vos apports en zinc et se complémenter si besoin est, plutôt que de prendre par exemple de l'ashwagandha. Donc encore une fois, c'est une question de priorité. Moi, j'ai vraiment voulu faire le test. Je me suis dit, c'est sympa, je traque tout. Peut-être que je vais observer une différence. Pour le moment, il n'y en a pas. Peut-être qu'il n'y en aura pas. On verra à la fin, ça me permet de faire un petit test. Alors après, l'échantillon sur lequel l'ashwagandha est utilisé, c'est un tout petit échantillon parce qu'il se résume qu'à moi-même. Mais bon, je n'allais pas embarquer plein de monde et puis tout le monde ne peut pas traquer ces données comme je le fais, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. À la fin, je verrai.
Pas, comme je l'ai dit, c'est personnel. Tout le monde ne réagit pas de la même façon aux plantes. Il y a aussi, je pense, une grosse part de placebo où si tu es convaincu que la plante va t'apporter quelque chose de spécifique qui va améliorer la qualité de ton sommeil, ton taux de testostérone. Si tu es convaincu de quelque chose, l'effet placebo va être là pour te dire la prise de ce complément alimentaire va faire que tu vas te sentir mieux. Mais ça reste très spécifique à chacun et psychologique.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a fait le tour de la question.
Ouais.
On a été plus loin. On était plus loin que la question aussi.
On donne des anecdotes aussi, je sais pas. Mais...
C'est vrai. Et il reste beaucoup de questions, je ne sais même plus combien.
Il reste 3.
Ah, pas mal.
Alors, je te pose la suivante. Combien de séries par séance?
C'est à moi de répondre en premier ou c'est à toi?
Je ne sais plus pour le complément alimentaire qui a répondu.
Je ne sais plus.
Tu veux. Mais là, encore une fois, combien de séries par séance? On va pouvoir apporter plusieurs éléments de réponse. Tout va dépendre du niveau de la personne, de sa capacité à aller proche de l'échec. Et de ce qu'il a aussi dans son programme, de sa fréquence qu'il est capable de faire, de ce qu'il souhaite en termes d'objectifs, est-ce qu'il souhaite mettre aussi un accent sur un groupe musculaire. Enfin voilà, il y a la question globale du combien de séries par séance, mais après il y a le pourquoi et comment de la composition de sa séance, donc ce qui en découle.
Ok, moi je vais faire une réponse plus courte, je pense.
Vas-y, surtout que je n'ai pas répondu, j'ai juste donné les petites pistes qu'on pouvait avoir sur cette question.
Alors, ton nombre de séries par séance va être adapté en fonction de tes capacités de récupération, tout simplement.
Ah oui, les récupérations. Ouais.
C'est le facteur principal à prendre en considération, dans le sens où si tu peux récupérer entre chacune de tes séances en faisant 4 séries par exo, eh bien fais-le. Si maintenant, comme moi, tu ne peux faire que une ou deux séries maximum parce que tu mets beaucoup d'intensité, sinon tu n'arrives pas à récupérer, eh bien fais-le. Voilà, il faut savoir que c'est vraiment tes capacités de récupération qui vont compter. Et en fait, c'est un peu comme si c'était une balance. D'un côté, tu vas avoir tes capacités de récupération et de l'autre, tu vas avoir eh bien, ton volume d'entraînement, ton intensité, etc. Et c'est sûr que si tu as une faible intensité, tu vas pouvoir avoir un peu plus de volume. Mais si par contre, tu as beaucoup d'intensité et que tu gardes ton volume, ce qui va se passer, c'est que ça va vachement pencher du côté et tu vas avoir des difficultés en fait à récupérer. Donc, en fait, ton volume d'entraînement va être adapté en fonction de l'intensité que tu mets dans tes séances. Et plus tu vas t'entraîner dur, et en fait, moins tu pourras te permettre d'avoir un volume qui est important.
C'est ça, exactement. Ce qu'on a relayé ces derniers mois, c'est que l'intensité était supérieure au volume. Mais comme tu l'as dit, ça dépend aussi du niveau de la personne. Un débutant ne va pas pouvoir aller aussi proche de l'échec qu'une personne qui a voilà, quelques mois de pratique, quelques années de pratique. Donc c'est vrai que le débutant, on aurait tendance à dire que avoir un peu de volume, c'est bien parce que bah, d'une part, ça lui permet d'avoir une tension sur ses muscles, d'apprendre techniquement les exercices, et puis parce qu'il va pouvoir bien récupérer, c'est ce que disait Denis. Ensuite, le pratiquant qui va avoir un niveau intermédiaire, qui va être capable d'aller vraiment loin, ou du moins proche de l'échec musculaire, eh bien lui aura tendance, et c'est ce qu'on conseille, descendre son volume au profit de l'intensité. Donc peut-être qu'on peut donner des... Parce que je pense que c'est ça que les gens attendent aussi. Denis, peut-être que tu pourrais donner un petit peu le volume que tu as sur une séance.
Oui, pourquoi
Je
pas.
te prends un peu de cours.
Oui, ça ne me dérange pas. On va prendre par exemple ma séance push.
Ouais, bah justement, moi je pensais aussi à ma séance push parce que c'est ce qui va parler peut-être...
Ouais, c'est ce que les gens veulent savoir.
Voilà, je pense aussi.
Comment, alors je vais faire ma séance push avec un focus sur sur les épaules, du coup. C'est celle que j'ai faite hier, c'est pour ça.
Ouais, moi aussi.
Pour ça, c'est... Ah, j'avais mon
C'est
logbook
frais, c'est
hier.
frais.
Ouais, c'est encore frais. Alors, j'ai
Non, parce que
commencé.
tu nous demandes ce qu'on a fait la semaine dernière. Bon, on se rappelle bien sûr, mais
C'est pour
là,
ça
au
qu'on
moins,
a...
c'est un peu plus frais.
C'est pour ça qu'on a le logbook pour te noter.
Pour combler notre mémoire de poisson.
C'est ça. Alors, hier, j'ai commencé donc avec deux séries d'élévation Y à la poulie. Pour travailler du coup donc mon faisceau latéral dans sa position raccourcie. D'ailleurs, enfin, j'ai demandé en story quel était l'intérêt de cet exo. Il y a la première personne qui a répondu à la story a trouvé et personne d'autre n'a trouvé après. Je pense que c'est intéressant que je fasse une vidéo, je pense, sur le sujet. Donc j'ai commencé avec ça. Après, du coup, donc j'ai fait un high incline à la Smith Machine. Donc il y a un mouvement à dominante. Bien du faisceau antérieur de l'épaule, mais où du coup je vais également recruter un peu de faisceau claviculaire des pectoraux. Après, j'ai fait une chest press, donc la chest press Panatta, donc pour les pectoraux. Ensuite, j'ai fait donc.
Attends, t'as pas dit le volume parce que t'as dit
Ah oui, pardon!
deux séries, parce que c'est quand même ça. Là, tu nous débriefes ta séance là.
C'est vrai, je suis en train de faire. Alors, donc, j'ai fait deux séries d'élévation Y. J'ai fait un top set et un back off au high incline. J'ai fait, du coup, donc deux séries de chest press. J'ai fait ensuite une série d'écartés à la machine. Par rapport aux écartés à la machine, peut-être que je pourrais en faire deux en variant la courbe de résistance de la machine
Ah
et
oui,
en
mais toi,
lui.
t'as une machine prime aussi,
Moi,
c'est
j'ai une
bon.
machine prime. Donc, à voir, je pourrais peut-être augmenter le volume dessus, mais une, vraiment, déjà, ça m'a pris mon âme. Ensuite, du coup, donc, j'ai refait des élévations latérales, cette fois-ci, donc, à la poulie, pour travailler le faisceau un peu plus dans sa position étirée, parce que j'avais fait aucun mouvement dans sa position raccourcie. Donc, là, j'ai refait deux séries. Et ensuite, j'ai terminé avec eh bien, des extensions croisées à la poulie haute pour les triceps.
C'est pour les triceps. Et combien
Et
de séries?
j'ai fait deux séries. Donc,
Ben...
si on fait un total de mémoire, ça fait quatre séries pour le faisceau latéral, deux pour le faisceau antérieur, ça en fait trois pour les pectoraux et ça en fait deux pour les triceps.
Ouais, ça ferait 11.
Ça en ferait 11, ouais, c'est
2,
ça.
4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ouais, 11.
Et dites-vous que je suis complètement cramé aujourd'hui. Je suis complètement cramé. Là, je refais donc ma prochaine séance push dans 4 jours. Et je me demande comment je vais faire pour récupérer suffisamment d'ici là. Donc voilà comment ça se passe. Vas-y, fais-nous un petit récap de ta séance maintenant.
Et ben justement, j'étais en train de faire ça. Mais alors, au niveau de la construction de ma séance, elle est quasiment similaire à la tienne. Je commence par un exercice d'isolation pour le faisceau latéral à la poulie, où je fais 2 séries. Ensuite, j'ai une chaise presse légèrement déclinée, où je réalise également 2 séries. Ensuite, exceptionnellement, j'ai fait 3 sets sur le prochain exercice. Donc c'est une inclinée, une presse inclinée. J'ai pas de mouvement avec overhead press quoi, enfin un mouvement où j'ai un mouvement qui passe au-dessus de ma tête.
Okay.
Ensuite, je reviens sur une machine pour faire un set d'élévation latérale, 2 sets sur une Smith prise serrée.
Ok.
Une isolation pour les pecs où je fais une série, et après j'ai 3 séries pour les extensions triceps qui nous donnent 13 séries, 13, 14 séries, 2, 4,
6. Je sais pas compter, je t'avoue.
8, 8, 10, 13, 14.
Ouais, 14 séries. Ouais. Après, le volume aussi est adapté en fonction des points forts et des points faibles de chacun.
Tout à fait.
Peut-être que toi, tu as mis un peu plus de volume sur tes triceps, peut-être que tu as mis un peu plus de volume sur tes pecs, etc. Par exemple, voilà. Tu avais un mouvement polyarticulaire pour les triceps. Moi, je n'en ai pas dans cette séance. Donc voilà, tout est adapté. Mais en gros, pour dire qu'on a quand même un volume qui est assez faible d'entraînement, et encore, moi, c'est ma séance push. C'est celle où je récupère le mieux. Donc...
Moi aussi, ouais, c'est pour ça que je mets un peu plus de volume. Non, mais tu vois,
ça.
Donc ça, c'est encore une fois très personnel. Hein.
Si on prend la séance jambes, il y a quand même beaucoup moins de volume. Donc tout va dépendre des capacités de récupération de chacun. Et encore une fois, c'est qu'on va à l'échec sur toutes nos séries et on a l'expérience en fait pour emmener nos séries au plus proche de l'échec. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde n'est pas capable de faire. Et c'est ça aussi qui fait que certaines personnes peuvent accumuler un peu plus de volume. Parce qu'en fait, par définition, les personnes qui s'entraînent vraiment dur, déjà d'une, ne peuvent pas s'entraîner plus de 4 ou 5 fois dans la semaine. Donc déjà, si tu t'entraînes 6 ou 7 fois dans la semaine, c'est déjà un indicateur comme quoi tu ne t'entraînes pas suffisamment dur. Et en plus de ça, forcément, si tu t'entraînes suffisamment dur, ton nombre de séries, en général, ne peut pas dépasser les trois séries. Et tu te retrouves vite avec une ou deux, dans certains cas ça peut être 3 séries. J'imagine que pour toi c'était un nouveau mouvement.
Pour la inclinée ?
Ouais.
Non, c'est que c'était un recyclage un recyclage. C'est-à-dire que j'arrive en bout de course, je suis en dessous des 5 répétitions sur le top 7, donc je juge que, enfin en dessous des 5 sur mon top 7 et en dessous des 10 sur mon back-off, et je juge que je voulais avoir un peu plus de volume, donc je me suis accordé une série un peu plus, enfin un troisième set pour avoir plus de volume et pour préparer la chute de mon top 7 qui va bientôt arriver quoi.
Ouais, parce que du coup tu vas virer le top 7 et
c'est ça, mon back-off deviendra mon top 7 et la troisième série que je viens d'introduire deviendra mon nouveau back-off.
Parce que du coup, voilà, mais hors situation exceptionnelle, c'est très rare que du coup on fasse plus de volume que ça, simplement parce que on pourra pas suffisamment récupérer. Et après, si on récupère pas suffisamment, d'une, on ne peut plus progresser, et deux, le risque de blessure augmente. Et encore une fois, on l'a bien vu avec mon dos, j'avais trop de volume, notamment sur les mouvements type hack, roumain, etc. S'en est suivi du coup donc une petite blessure et maintenant je me retrouve à devoir diminuer mon volume, chose qui, si j'avais eu un volume plus bas dès le départ, mais ça c'est très difficile encore une fois à l'estimer, ne serait peut-être pas arrivé. Donc le volume d'entraînement, c'est vraiment à déterminer en fonction de tes capacités de récupération, et tes capacités de récupération vont indirectement être liées à l'intensité que tu mets dans tes séances, tout simplement. Et sache que si tu n'arrives pas à mettre l'intensité maximale tout de suite, c'est normal.
Oui.
La plupart des gens, vont dire « Oui, mais moi, je m'entraîne dur, je vais à l'échec et pourtant, eh bien, j'arrive toujours à faire mes 4 séries. » Eh bien, c'est tout simplement que non, tu n'es pas encore à l'échec. Mais en fait, c'est souvent
c'est
dû à
moi. Voilà, c'est
souvent en fait dû à un manque d'expérience. Et c'est en répétant que tu vas te rendre compte que tu vas te rapprocher de plus en plus de l'échec musculaire réel. Et c'est là où tu vas te rendre compte que tu devras diminuer ton volume parce que tu ne pourras pas faire toutes tes séries sinon de cette façon-là. Mais si c'était simple la muscu, si voilà, pour avoir toute l'expérience qu'on a acquise, il suffisait de claquer des doigts, eh bien, très honnêtement, les coachs ne serviraient à rien et tout le monde progresserait en salle, alors qu'il y a vraiment une minorité de personnes en salle qui progressent réellement.
Parce qu'il faut le dire, avant qu'on en arrive à un volume de 10 à 15 séries par séance, on avait bien plus de volume avant, mais parce que ça faisait partie aussi de notre programme où on avait 4 séries, où on était capable de progresser sur 4 séries. Mais au fil des mois, des années de pratique, on a réduit ce volume. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire d'un coup et il faut voir ça un peu comme un entonnoir. Au début, tu peux accumuler beaucoup de volume parce que bon, bah, tu es capable aussi de le tenir, mais après, ça va se réduire parce que l'intensité va augmenter.
Moi, je suis totalement d'accord avec toi.
Juste pense, pour clôturer sur cette question, peut-être qu'on peut donner une fourchette d'estimation de séries ou pas.
Je pense qu'elle est trop différente en fonction de chacun.
Trop différente,
ouais. Ouais, pour pouvoir
ça
donner.
Ça dépend aussi de la fréquence des personnes aussi, du nombre. S'ils s'entraînent deux fois ou enfin s'ils ont une double fréquence sur un groupe musculaire, par exemple.
Ouais. Et puis il y a un dernier point aussi qui est important, c'est par exemple les gens me demandent souvent comment je fais pour progresser à chacune de mes séances. Clairement, à chacune de mes séances, il y a soit du poids en plus sur la barre, soit plus de répétitions, mais il n'y a jamais une séance où je ne progresse pas, et ça sur tous mes mouvements. Voilà. Et encore une fois, ça vient du fait que j'ai un volume d'entraînement qui est adapté. Si ça fait 6 semaines, 8 semaines que tu es toujours au même poids, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ce n'est pas forcément toujours lié au volume, hein. Ça peut être ta technique d'exécution, ça peut être plein de choses, ta diète, ta récupération. Mais aussi, il faut savoir que parfois, et si tu veux progresser de cette façon-là, ça ne sera pas possible en ayant un volume d'entraînement qui est trop important.
C'est ça.
Je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci.
On a bien fait le tour, ouais. On a bien fait le tour. Avant-dernière question, quelles sont les alternatives au hack squat?
Ah oui, c'est moi qui l'ai sélectionné, celle-là.
Ouais.
C'est une très bonne question. Alors, tu as une idée d'un exo qui pourrait le remplacer? Moi, j'en ai un.
Ouais, mais alors, quand tu as goûté au hack squat, c'est vrai que si tu n'as pas de hack squat, tu penses à quoi, toi?
Alors, pour moi, la meilleure alternative, si du coup, donc, tu n'as pas de hack squat, alors... Il y a certaines personnes qui vont dire oui, un pendulum. Non, mais un pendulum, c'est encore plus rare qu'un squat. Ouais. Mais un mouvement que tu peux facilement faire et que tu vas pouvoir facilement faire dans toutes les salles de sport, c'est un squat à la Smith Machine.
Ouais, je pensais à lui aussi, mais après, toutes les Smith Machines ne se valent pas. Certaines sont légèrement inclinées.
Eh bien, justement, c'est plus intéressant d'avoir une Smith oblique qu'une Smith qui est complètement droite. Ouais. En fait, l'avantage d'avoir une Smith machine qui va être oblique, donc il y a certaines Smiths qui descendent sur un axe complètement vertical et il y en a qui sont inclinés en général à 15 degrés et qui vont aller plus ou moins vers l'arrière ou sur l'avant. Et justement, pourquoi c'est plus intéressant d'avoir une Smith qui va être oblique, c'est parce que tu vas pouvoir, en fonction du sens dans lequel tu te places, eh bien, augmenter ta flexion de hanche ou augmenter ta flexion de genou. C'est-à-dire que si tu fais en sorte que lorsque tu descendes, eh bien, l'axe oblique de la machine te pousse sur l'avant, ça va t'obliger plus facilement à augmenter ta flexion de genou et donc augmenter ton recrutement musculaire sur les quadriceps. À l'inverse, si tu te mets dans l'autre sens et que du coup, lorsque tu descends, eh bien, l'axe t'emmène vers l'arrière, ça va réduire ta flexion de genou, augmenter ta flexion de hanche et donc augmenter ton recrutement des fessiers. La plus grosse différence du coup, donc, entre un squat à la Smith Machine et un hack squat, c'est que tu ne vas pas avoir de support au niveau du dos. Donc, tu seras un peu moins stable et peut-être un peu moins safe sur le mouvement.
Oui, c'est ça, oui.
Mais c'est le meilleur compromis que tu peux avoir si tu n'as pas accès à un hack squat. T'as d'autres choses à rajouter?
Non, mais t'as dit ce qu'il fallait, en fait. C'est-à-dire, après, les gens n'aiment pas forcément la Smith Machine. Enfin, pour les retours que j'en ai, c'est un peu l'exercice, enfin la machine qui pose problème parce qu'elle est difficile à régler, on ne sait pas trop où placer les pieds. Donc c'est aussi un apprentissage. Ne pensez pas avoir les mêmes sensations sur une Smith Machine que sur un hack squat.
Après, c'est pareil, hein, sur le hack squat, tu dois apprendre à placer tes pieds. En fonction de comment tu vas les placer, tu vas avoir plus ou moins de flexion de hanche, de flexion de genou. Sur la Smith, c'est pareil. En fait, il faut que tu places tes pieds en fonction de ce que tu recherches à cibler en priorité comme groupe musculaire. Donc, il faut aussi, je dirais, avoir les connaissances ou être suffisamment bien encadré pour savoir comment te placer sur le mouvement. Là où je voulais venir, c'est que souvent, on voit sur les réseaux, il y a des vidéos qui tournent. Oui, tu n'as pas de hack squat. Alors, tu sais, tu mets la barre dans... j'ai perdu le nom. Tu sais, l'espèce de truc où tu fais ton T-bar avec.
Ah oui, je vois, putain. Le truc...
Ah, c'est tellement utile.
Ouais, le tube du T-bar, quoi.
Voilà, le tube du T-bar. Et en gros, tu te mets là-dessus et puis tu prends ton poids, tu le mets au niveau de ton épaule, donc soit à droite, soit à gauche, et puis tu fais ton hack squat comme ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. D'une, la mise en place est extrêmement compliquée. De deux, du coup, donc, il va y avoir plus de poids d'un côté que de l'autre. Vous n'allez pas être forcément stable. De trois, en fait, il ne va pas y avoir non plus de support au niveau du dos. Donc, vous n'y gagnez rien, absolument rien, par rapport à une Smith Machine. Donc, si vous voyez ce genre de vidéo, ne faites pas ça. C'est de la merde. C'est le petit mot de la fin. Est-ce que t'as d'autres choses ou pas à ajouter sur le sujet?
Non, c'était une question assez simple, justement, où, avec un seul élément de réponse.
Ouais, mais il y a, vu comme on met beaucoup de stories de hack squat, je pense que c'est...
C'était important de le préciser. Ouais.
C'était important de le préciser.
Puis après, petit tips sur le hack squat aussi, en fonction de ce que vous avez, n'hésitez pas, et surtout en fonction de la courbe de résistance du hack squat, si ce dernier vous fait un peu mal au niveau des genoux, au niveau des lombaires, n'hésitez pas à placer un élastique comme tu peux le faire. Je ne sais plus si tu le fais encore, toi, si tu mets un reverse band.
Ça dépend.
Ça dépend, oui. Donc, en fonction aussi de ce que vous souhaitez optimiser sur votre courbe de résistance, votre courbe de force, n'hésitez pas à mettre un élastique en reverse band afin de changer et moduler un peu la poussée.
Ça va vraiment dépendre de la machine.
Ouais, c'est ça que j'ai précisé ça. Hein. J'ai dit qu'en fonction de la machine, en fonction de ce que vous souhaitez aussi optimiser, si vous préférez avoir un mouvement où vous avez une grosse, un gros pouvoir d'étirement, vous laissez la machine telle qu'elle est en fonction de ce qu'elle vous propose.
En fait, tous les hacks vont avoir à peu près la même courbe de résistance. Ce qui va en fait varier d'un hack à l'autre, c'est... l'inclinaison du plateau qui va faire que le mouvement va pouvoir être plus ou moins agressif pour les genoux.
Ouais.
Plus on va avoir quelque chose qui va être vertical et plus ça risque d'être agressif pour les genoux et plus on va avoir quelque chose de couché et moins ça sera agressif pour les genoux.
Après, il y a des réglages plateau aussi qui peuvent être mis en place. Je sais que...
C'est ça.
Dans les hacks que tu as, tu peux vraiment moduler pas mal de choses. Hein.
J'en ai un sur les deux où je peux régler l'orientation du plateau. Ouais. Alors après, encore une fois, l'orientation du plateau, ça va surtout jouer sur d'autres facteurs que, mettre un peu moins de pression sur mes genoux.
En gros, plus vous êtes couché, plus ça sera facile et moins agressif pour les articulations.
C'est ça. Mais après, c'est toujours à adapter et puis à voir en fonction de vous. Tout le monde n'a pas les mêmes genoux, donc tout le monde n'a pas le même dos. Donc, il faut aussi faire attention par rapport à ça. Je pense qu'on a fait le tour. Il reste une dernière question.
Oui, une dernière question. Quelles sont nos inspirations?
Ah, c'est à toi de commencer cette fois-ci.
Allez, je vais commencer. Rétrospectivement, quand j'ai commencé la musculation, je vais parler en ma personne, j'étais très inspiré par la team Superphysique. Maintenant, j'ai évolué un petit peu et je me tourne vraiment plus sur le monde du body britannique et même en Amérique aussi. Voilà, Denis rigole, mais parce que il a les mêmes. On est vraiment hypé par ce qui se passe voilà, de l'autre côté de la Manche parce que ils ont une mentalité très proche de la nôtre actuelle hein, aussi. Avoir un faible volume, mais une grosse intensité, une optimisation de nos mouvements, la préférence des bonnes machines. Voilà, c'est vraiment plein de choses concordantes avec notre monde, notre vision des choses. Et si on devait donner des noms de personnes, alors que ce soit des pratiquants naturels ou non, on s'en fiche là-dessus, on est vraiment sur la vision des choses. On aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup Jordan Peters, mais je sais que Denis me rejoindra là-dessus. Jordan Peters, Corinne Hickman, sa femme. J'espère que je n'écorche pas leur nom. Et puis après, ça va être d'autres bodies plus jeunes. Donc, Edgy Morris, Jack Thorburn. J'aime
Kayfi.
aussi certains Suisses aussi. Enfin, c'est des Suisses allemands peut-être.
C'est Ramon, ouais.
La team Jim Brain, donc avec Ramon. Et puis après, j'ai mangé les noms des autres, mais peut-être que tu vas compléter.
Ouais, alors, les inspirations, moi, du coup, pour revenir, elles ont pas mal évolué, encore une fois, depuis mes débuts. Lorsque j'ai commencé la muscu, c'était l'époque où il y avait Mark Fit.
Ah oui.
Pour ceux qui connaissent, Mark Fit, il avait des pecs énormes. Moi, je voulais les pecs à Mark Fit.
Il y
Il y
avait Christian
avait
Guzman.
Christian Guzman, il y avait Greg Plitt, pour ceux qui connaissent. Et c'était le début aussi de Jeff Seed. C'était voilà, pas mal de personnes comme ça. C'était l'époque où les men's physiques avaient. Voilà, c'était la
Ils avaient le vent en
catégorie.
poupe, hein. Ils avaient le
C'est
vent en poupe.
ça. Tout le monde était centré sur les men's physiques et c'était le genre de physique. Et puis c'était Gymshark qui n'existait pas encore. Et quand ils ont commencé du coup à exister, donc ouais, c'était dans les athlètes Gymshark, il y avait Mark Fit, Christian Guzman, Matt August et Lex Griffin. C'était les quatre. Et c'était ceux qui commençaient à faire un peu des vidéos, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'était eux que je regardais. J'aimais bien regarder un peu leurs vidéos. Surtout Christian Guzman, il faisait des vlogs. C'était un des premiers à faire des vlogs. C'était hyper intéressant de voir sa vie. Au final, au début, où c'était juste un coach. Après, il a commencé à avoir une petite salle, monter sa marque de vêtements, envoyer les vêtements lui-même et tout. Et puis maintenant, bon, j'ai lâché, mais la dernière fois, je suis tombé sur son profil. Il a, je sais pas combien de millions d'abonnés. Le mec, il a une putain de salle. Il fait ses propres compétitions. Enfin. Le mec, voilà, il est monté petit à petit et il doit avoir je sais pas combien de vidéos de vlog. Au début, je les suivais. Après, j'ai un trou, mais du coup, ouais, je suis resté pas mal longtemps inspiré par eux. Et puis, ouais, plus récemment, donc comme disait Rémi, c'est plus les bodies britanniques, Jordan Peters et Jim Morris. Et moi, quelqu'un qui me hype vraiment, c'est Kuba Sielen.
Oui, bah bien sûr, ouais. Comment ne pas le citer?
Kuba Sielen, c'est vraiment un mec, voilà, pour ceux qui le connaissent, c'est un mec, du coup, donc c'est un body. Il a une salle, donc il est Ultra Flex Rotterdam, qui est pour moi la
La
salle,
meilleure.
ouais, en Europe. Je pense qu'il n'y a pas une salle qui est mieux équipée que celle-là. Elle a vraiment, en fait, toutes les meilleures machines qui puissent exister de toutes les marques qui sont regroupées au même endroit. D'ailleurs, un des buts de mon voyage, ce serait d'y aller et d'y rester une petite période, de m'entraîner là-bas parce que c'est pas juste une salle qui est bien, c'est aussi en fait il y a tous les grands body qui s'entraînent là-bas, que ce soit des natis, que ce soit des non-natis qui s'entraînent dans cette salle. C'est vraiment en fait la réunion de tous les mecs qui s'entraînent vraiment bien et dur. La salle a vraiment ce que je dirais une âme, tout simplement. Et donc c'est Kuba qui est le propriétaire. Et Kuba, c'est un mec, tu le vois souvent sur les vidéos, il encourage les gens, tu vois. Et quand il encourage les gens, il est encore plus dans le set que la personne qui fait son set. Et moi, dans la vie, voilà, je veux une salle et je veux gueuler sur les gens comme ça quand ils font leur série
Ouais, faut pas leur laisser le choix, quoi.
pour les encourager. Donc, c'est vrai que Kuba est une grande inspiration pour moi parce que voilà, il a la salle, il a en fait, il a atteint un peu mes objectifs. Alors, il fait du body en étant non nati, ce qui n'est pas mes objectifs. Mais sinon, pour le reste, ouais, il a vraiment donc créé une salle avec une âme et il participe, il contribue à propager voilà c'est un peu cette flamme de l'intensité avec les gens qui le veulent et je trouve ça beau et je trouve enfin c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi donc c'est vrai que voilà j'aime beaucoup Kuba Sielem.
C'est vrai, t'as bien ouais c'est vrai que ce personnage là il est c'est vraiment une grande personne, une très grande personne.
On a fini les questions là?
On a fini les questions, ouais.
Ok. Je pense qu'on va pouvoir terminer le podcast. Il fait 1h30
ouais.
De ce que je vois. Je pense pas qu'on le coupe en deux celui-là. On le mettra en entier. Pour toutes les personnes qui ont écouté le podcast jusqu'au bout, merci. N'hésitez pas du coup donc à laisser des commentaires sur les plateformes. On a vu qu'on avait pas mal d'avis sur Spotify.
Enfin, on l'a vu tout à l'heure, plus de 70 évaluations et 5 étoiles. Bon, alors, je ne sais pas trop ce que ça représente, je n'ai pas regardé les autres podcasts, mais déjà 70 personnes qui nous soutiennent grâce à une étoile, enfin 5 étoiles pour le coup, c'est vraiment, vraiment
merci.
Gentil.
Ouais, enfin, merci.
Très
merci
bienveillant de votre part aussi.
Ouais, n'hésitez pas aussi sur, bien sur YouTube, il y a pas mal de personnes qui ont mis des commentaires. Donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes où on peut interagir avec vous et d'autres où on ne peut pas. Donc voilà, si vous écoutez le podcast sur une plateforme sur laquelle on peut interagir, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé, pour dire eh bien, si vous avez des suggestions pour le podcast, pour qu'on s'améliore aussi, tout simplement. Donc je pense qu'on peut conclure le podcast. Rémi, tu as d'autres choses à dire ou pas?
Ouais, peut-être qu'on peut donner l'idée d'un prochain podcast, enfin ce qu'on imagine pour un prochain podcast.
Alors, je pense pas qu'il faut trop s'avancer, parce qu'en termes d'organisation derrière, faut qu'on puisse s'y assumer, mais vas-y, je t'en prie.
Mais non, mais on avait imaginé faire, parce que ça a été beaucoup demandé, de faire un podcast dédié au cut, à réussir un cut.
Ah et oui.
Voilà. Donc c'est l'idée d'un prochain podcast.
Oui, comment réussir son cut, un mini cut, etc. Ok, je pensais que tu parlais allais parler des prochains épisodes, mais du coup,
ah
c'est
non,
bien.
Non.
Du coup, c'est bien, ça fait un peu de suspense et les gens vont se dire, ah, mais c'est quoi les prochains épisodes, etc. Bon, tant mieux, ça laisse un peu sur la fin et puis les gens auront peut-être envie de savoir qui c'est. Donc voilà pour ce podcast. Merci à vous tous d'avoir écouté. Et puis écoutez, on vous dit à bientôt dans le prochain épisode du Zéro RIR Podcast.
Merci, salut.